Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous revenons une dernière fois cette semaine dans nos lectures en liberté sur le roman de Jean Rouault, Les Champs d'honneur. Un soir, à table, grand-mère se risqua à poser à grand-père quelques questions sur ses activités là-haut. Il ne répondit pas directement, mais demanda à son tour à maman si elle était au courant de cette histoire de Commercy. Maman leva la tête, étonné qu'on puisse encore s'adresser aux morts vivants. Grand-père n'insista pas. Un dimanche pourtant, il entreprit Mathilde par-dessus la haie de laurier entre les jardins. Elle fit de la main un geste qui effaçait dans l'espace quelque chose dont elle ne voulait plus entendre parler. Sur quoi la petite tante mourut. On s'avisa qu'on était le 19 mars, la Saint-Joseph, comme si au cours de son périple inconscient, elle avait épluché chaque jour le calendrier pour débarquer ce jour-là précisément qui unissait pour elle le neveu récemment disparu et le souvenir lointain de son frère. Il soufflait le jour de l'enterrement un vent du diable. Les surplis se soulevaient en même temps que les jupes des femmes. Les enfants de cœur agrippaient à plusieurs la hampe de la haute bannière à larmes d'argent qui se tordait sous la bourrasque, s'enroulait, gonflait, tentait de s'arracher à son tuteur. En tête de la procession, le porteur de la croix fonçait dans la tempête comme un hallebardier, crucifix de bronze en avant. Le curé Bidot, ne pouvant plus retenir son étole au bras, l'avait nouée comme une écharpe autour du cou. Elle flottait derrière lui dans l'éclat de ses paillettes d'or. Le vent tournait les pages de son missel plus vite qu'il ne les lisait. De crainte de déchirer le fin papier Bible, il avait refermé son livre et improvisait ses prières. Les cantiques qu'il entonnait à tue-tête étaient emportés par une gifle de grands frais sur la route de Paris avant qu'on ait eu le temps de les reprendre en chœur. Le clergeot, responsable du seau d'eau bénite, avait déjà répandu la moitié du précieux liquide sur sa soutanelle. À l'arrivée, au moment de l'aspergesme, on se partageait ce qu'il en restait, on trempait le goupillon pour la forme. Les hurlements du vent couvraient le piétinement du cortège. On avançait, tête baissée, le souffle coupé, se fiant pour le chemin à celui qui vous précédait, préoccupé avant tout de ne pas s'envoler. Grand-mère et maman avaient ôté leur voilette. Grand-père tenait fermement son chapeau à la main. D'autres couraient après un béret ou un foulard. Le corbillard tanguait, tiré par le cheval de Monsieur Biloche. Ses draperies noires claquaient, s'agitaient comme une nuée de corbeaux autour du corps. Dans le grand virage menant au cimetière, il manqua même de verser, ce fut son dernier voyage. Après, c'est une ambulance qui mena les défunts. Biloche fils estima qu'on ne pouvait plus avancer sans mettre en péril la sécurité du mort. Il choisit trois hommes solides dans le cortège et ensemble, ils empoignèrent le cercueil, le tirèrent hors du baldaquin et après s'être consultés du regard, le hissèrent vigoureusement sur l'épaule avec une facilité qui les surprit. L'impulsion donnée au départ était trop appuyée pour ce poids plume et le coffre manqua de sauter comme à la fête des pompiers involontaires sur le drap tendu. C'est donc à dos d'homme, bien calé contre la joue de ses porteurs, en roulant peut-être dans sa boîte trop grande, que notre Vierge Marie franchit le seuil de sa dernière demeure comme une reine. L'âme rougissante que de si beaux hommes consacrent ainsi sur le pavois sa féminité timide. Au retour du cimetière, grand-père regagna une dernière fois le grenier, le temps d'y retirer une boîte à chaussures, qu'en descendant, il tendait à maman avec quelques mots d'explication. Maman écouta d'une oreille lasse, et ne sachant où ranger la boîte, la déposa dans un coin du bureau, où elle disparut bientôt sous les papiers. Le vieux couple chargea ses valises dans la deux chevaux. Rapide séance d'adieu sur le trottoir devant le magasin, moustache piquante de grand-père, plus douce de grand-mère, émotion dissimulant mal de part et d'autre un bon débarras, le sentiment d'un fiasco. La voiture avait à peine disparu dans le virage qu'on se précipitait au second, jugé des nouvelles dispositions du lieu. De fait, on ne reconnaissait plus le grenier. Si l'on considère que l'ordre n'est qu'une variation algorithmique subjective du désordre, alors on peut dire du grenier ordonné selon grand-père que c'était la même chose qu'avant, mais dans le désordre. C'est-à-dire qu'au chaos, il avait substitué un autre chaos, avec cette différence pour nous que celui-là ne nous était pas familier. Sur les étagères où avaient été déposés au fil du temps de précieux déchets de civilisation, au point de constituer une sorte de relevé stratigraphique des générations successives et de leur élémentaire idée de survie, grand-père, en modifiant le spectre de cette accumulation, avait brouillé le temps, battu les cartes de notre pincevant familial. Dans cette nouvelle donne, tous nos repères avaient disparu. Avec les mêmes éléments, il avait composé un autre tableau, une autre histoire. Il faudrait s'habituer désormais à cette redistribution de la mémoire, au petit bonhomme de céramique bleue dans la cage à serin, au chapelet à grains noirs pendu au cou de l'ourson manchot, pour lequel il avait manqué à papa le talent de cousette qui lui eut rendu le bras, au chandelier en bronze jouant les serre-disques sur une pile de 78 tours, un dénommé Bach qui raconte des histoires de comiques troupiers, aux revues en vrac dans le berceau d'osier développant sur 100 années le même art immuable de la blanquette, au miroir brisé sur le plancher gris de poussière reflétant par morceaux les chevrons du toit, à cette chaussure orpheline posée sur un paquet de factures soigneusement ficelées et témoignant pour 1000 ans qu'elles ont bien été payées, à tous ces objets en soie réapparus sans légende, cette pipette en fer blanc, cet obus conique en laiton, cette espèce de chapeau chinois percé de petits trous comme une bâtée, cet outil serpentiforme, ce coffre en bois judicieusement compartimenté. Car le bouleversement ramenait à la surface non seulement des préalablement enfouis, des oubliés, mais aussi apparemment des inédits. C'est ainsi que grand-père avait exhumé une série de portraits photographiques qu'il avait alignés face au fauteuil Voltaire à la coudoir brisée, où il s'installait, en témoignait au pied un cendrier rempli de mégots, les classant non dans un souci généalogique, mais en regroupant des familles de ressemblance par affinité morphologique, comme s'il avait cherché dans cette théorie de la réincarnation à retrouver la trace du passage de la vie, à saisir par ce fil rouge des similitudes une recette d'immortalité. Confrontés à ces bribes de nous-mêmes éparpillées dans ces visages anciens pour la plupart inconnus, on ne pouvait nier être une partie perdurante de cela. On reconnaissait dans les yeux de cette lointaine aïeule, un presque daguerréotype, les yeux intacts, de Zizou. Et c'était troublant, cette transmission du regard à travers la mort. Restait la boîte à chaussures. Cette passation solennelle, ces quelques mots secrètement murmurés, c'était clair, grand-père avait regroupé dans ce carton l'essentiel de ses trouvailles. On agita la boîte, elle ne tinta pas. Ne contenant pas d'or, elle nous apporterait pour le moins la preuve de quelque ascendance glorieuse. Il y avait là des photos, des cartes postales, des lettres, une broche, un médaillon et deux cahiers. L'écriture du plus abîmé des deux, appliquée au début, se défaisait à mesure qu'on tournait les pages, jusqu'à devenir presque illisible sur la fin, quelques notes jetées qui se diluaient dans le blanc des dernières feuilles vierges. Sur les photos, on reconnaissait les parents de papa, Pierre, dans sa voiture ou en tenue militaire. Aline, massive, dans un fauteuil, un petit chien blanc et noir sur ses genoux, ou jeune fille souriante. Tous les documents, finalement, se rapportaient à eux, à l'exception d'une image pieuse qu'on aurait mieux vue dans le missel de la petite tante. Mais à y regarder de plus près, la prière au Verseau avait de forts accents patriotiques. Il y était question de la Grande Guerre où Dieu avait choisi sans équivoque son camp, la fille aînée de l'Église. Avec un tel soutien, l'issue du conflit ne faisait aucun doute. Joseph s'en serait certainement réjoui, le frère aimé de Marie, mais une note manuscrite confirmait qu'il était bien mort à Tours des suites de ses blessures le 26 mai 1916. On déposa l'image funèbre sur le buffet, qu'on remplaça dans la boîte, sur une idée de Nine, par le dentier d'or et les deux alliances. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? L'imagination s'emballe. La caverne d'Ali Baba, le bois de la vraie croix, la voix de Rudolf Valentino. On la casse. Et on l'avale. On apprend qu'elle contient oligo-éléments et vitamines, glucides et lipides, mais que la caverne d'Ali Baba est dans la tête de Scheherazade, le bois de la vraie croix, dans l'arbre de la connaissance, et la voix de Rudolf Valentino dans le regard du sourd.
Anticlérical, fanatique, gros mangeur d'ecclésiastique, cet aveu me coûte beaucoup. Mais ces hommes d'église, hélas, ne sont pas tous des dégueulasses. Témoin le curé de chez nous. Quand la foule qui se déchaîne pendit un homme au bout d'un chêne, sans forme aucune de remords. Ce ratichon fit un scandale et rugit à travers les stalles, mort à toute peine de mort. Puis on le vit, étrange rite qui baptisait les marguerites avec l'eau de son bénitier et qui prodiguait les hosties, le pain béni, l'eucharistie aux petits oiseaux du moutier. Ensuite, il retroussa ses manches, prit son goupillon des dimanches et plein d'une sainte colère, Il partit comme à l'offensive dire une grande messe exclusive à celui qui dansait en l'air. C'est à du gibier de potence quand cette triste circonstance, l'hommage sacré fut rendu. Ce jour-là, le rôle du Christ, bonne aubaine pour le touriste, était joué par un pendu. Et maintenant, quand on croasse, nous, les païens de sa paroisse, c'est pas lui qu'on veut dépriser. Quand on crie « Abba la calotte » à s'en faire péter la glotte, la sienne n'est jamais visée. Anticlérico-fanatique, gros mangeur d'ecclésiastique, quand vous vous coinfrerez un plat de cureton, je vous exhorte, camarades, à faire en sorte que ce ne soit pas celui-là.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Jean Rouault, Les Chants d'honneur, dernier passage. Les conciliaires byzantins qui débattaient du sexe des anges n'étaient pas loin, aux yeux de la petite tante, de passer pour des pornocrates. L'embarras de papa lui-même devant la maternité où nous avions garé la voiture pendant que maman rendait une visite à laquelle les enfants n'étaient pas admis, quand il dut répondre à la question de savoir comment différencier dans ces petits tas de chair rose les filles des garçons. Il hésita un moment, tapotant des doigts le bord de son volant, ce qui traduisait chez lui un certain agacement. Phallus, pénis, trop savant. Verge, gnangnan. Quéquette, infantile. Un enfant n'est plus un enfant. Soudain, l'illumination, et, se retournant avec un petit sourire malicieux et gêné, le robinet. Merveilleux papa pudique. Il n'y eut pas d'autres informations sur la question, et donc beaucoup de travail plus tard au moment de la découverte de la double fonction du robinet. Pourtant, cela suffit. La flèche a vibré un moment, mais s'est plantée au centre exact de la cible. Cette aura de silence autour du ventre arrondi des mers, c'est aussi une manière de souligner l'extravagance de la nébuleuse qui nous rend si prudents dans son approche, presque détachés, au point que la vie semble à peine tenir à nous, et nous à peine à la vie. Même si les sous-entendus affleurent parfois. Témoin dans la boîte à chaussures le cahier de chansons d'Aline, jeune fille. Ce cahier appartient à Signé, où parmi l'intégrale de Théodore Botrel, le barde breton de Paimpol et sa Paimpolaise, j'ai deux grands bœufs et t'es bien trop petit mon ami, qui à 16 ans faisait redouter d'être haut tout comme, on tombe soudain sur un objet de désir qui s'allonge et s'étire et n'est autre, vous l'aviez deviné, mesdames, qu'une jarretière. Et ce quiproquo entretenu jusqu'au dernier vers arrachait sans doute, en fin de banquet, une sorte de soulagement collectif, bien vite recouvert par « je sais une église au fond d'un hameau, dont le fin clocher se mire dans l'eau ». Comment notre vieille Marie s'y prit-elle pour annoncer à l'occasion des premières règles de Nine, peut-être, puisque c'est elle qui le raconte, que les siennes occupèrent dans sa vie une parenthèse de 8 années. De 18. Ce qui ne marquait pas une grande précocité à 26 ans. Fourvoiement de la nature dans ce corps chétif, comme pour offrir moins de prise aux élans amoureux, se vouant désormais à l'imitation des saints et l'enseignement des enfants. 2 milliers de petites filles étalées sur 50 ans, 3 générations, autant de républiques, 2 guerres mondiales, et elle priait encore, avec ses élèves, pour la paix en Algérie. Son talent d'institutrice, c'est sa dette au Seigneur, son apostolat. Qu'aucun figuier ne demeure plus sans fruit. C'est ainsi qu'elle apprit à lire, écrire et compter à une presque autiste jeune femme à la quarantaine prostrée qui nous effraie un peu quand nous allons chez ses parents passer commande d'un poulet pour 5 personnes. Assise dans un coin sombre de la cuisine, entre mur et buffet, un gilet rouge, posé sur ses maigres épaules comme une tunique flamboyante qui la consume, elle balance doucement la tête d'avant en arrière au rythme de ses pensées monocordes et du gémissement de l'osier. On dirait que son corps entier fait fonction d'horloge, qu'elle vit pour mesurer son temps de vie. Parfois, elle resserre autour de sa gorge le col de son gilet et frissonne comme sous le coup d'un grand froid intérieur. Son visage toujours penché se dissimule derrière la masse des cheveux qui accompagnent en cadence son mouvement perpétuel. Ses pieds sont posés l'un sur l'autre, chaussés de pantoufles trop grandes, ses bas mal ajustés. Elle fuit les regards et répond d'un grognement à nos bonjours. Si la présence de maman n'est pas nécessaire à notre visite, elle enregistre la commande sur un cahier qu'elle extrait d'un tiroir du buffet, d'une écriture hésitante, laborieuse, qui a quelque chose de miraculeux, de ces démarches déhanchées d'anciens paraplégiques pour qui chaque pas est un arrachement au désastre. Et si elle ne tire pas la langue, il faut la voir ainsi courbée sur sa page d'écriture, studieuse, permanente apprentie, extirpant les mots comme des nouveau-nés douloureux ensevelis dans l'épaisseur même de la feuille, presque couchée sur son bras gauche, qui forme avec l'écran de ses cheveux un rempart à nos regards. Puis, sa tâche accomplie sans qu'on lise sur sa face de perpétuelle absente quelques sentiments de gêne ou de victoire, elle referme le cahier, le replace avec le crayon dans le tiroir et s'en retourne tête basse à son fauteuil. Signe pour nous de nous en aller, de l'abandonner à ses abîmes. Ténébreuse plongée qui donne à l'allée de cèdres conduisant à la grande route des allures de voix céleste. Et c'est vrai que d'autrefois elle rend convenablement la monnaie. Ses parents en étaient si fiers, si reconnaissants à la petite tante, qu'ils ne manquaient jamais de glisser dans le sac quelques œufs provenant de leur élevage. Peut-être grisée par son succès, ou assurée de la bienveillance divine, la tante voulut exercer ensuite ses talents sur la petite Annie. Mais elle dut cette fois capituler. La petite Annie, sans âge, à la grosse tête souriante et aux yeux bridés de sa Mongolie mentale qui déambulait librement dans le bourg en blouse d'écolière, ses chaussettes blanches remontées jusqu'aux genoux, sa coiffure sage maintenue par une barrette, fière des jolis rubans grâce auxquels elle se décernait un prix d'élégance, répétant inlassablement à chaque passant qui s'enquérait de sa santé comme un juif exilé loin de Jérusalem, « La petite Annie à Paris demain !» Et son vœu finalement exaucé, Paris, où elle finit par regrouper la diaspora de ses chromosomes pour y mourir, au-dessus de la pâtisserie de sa sœur aînée à Passy. annonçait-elle encore aux gens des beaux quartiers qui n'ont peut-être pas notre indulgence qu'elle irait à Paris demain, tel ce nouveau venu qui cherche Rome en Rome, et rien de Rome en Rome n'aperçoit. Paris était en effet le seul mot qu'elle identifia, grâce à un subterfuge de l'attente qui, à la place du « A », dessinait une tour Eiffel. Si bien que devant le monument grandeur nature, la petite Annie fut sans doute la seule, parmi les millions de visiteurs, à lire le nom de la ville promise dans l'enchevêtrement des poutrelles. Pauvre tante, on devine sur quel ton de petite fille à l'enjouement forcé, elle dut s'immiscer dans la conversation sans qu'on l'eût conviée. Simplement fâchée qu'on ne s'occupât pas d'elle avec son habitude d'avoir toujours surtout son mot à dire. Cela irritait papa qui ne comprenait pas qu'elle eût aussi un avis sur tel joueur de football. Rabrouée, elle se faisait malgré tout répéter son nom en prévision d'une prochaine discussion où elle en parlerait comme d'une vieille connaissance. Mais ce jour-là, le terrain n'est pas pour elle. Elle le redoute même comme une peste de l'âme où sont abordés ce mode d'assemblage des corps et cette conception des bébés qu'une juste bonté de l'époque ne la força jamais à enseigner. Du moins se jette-t-elle courageusement à l'eau plutôt que de rester seule sur son île en apportant ce qu'elle sait de la question, sa modeste expérience, cette humble pierre dans l'édifice de la connaissance. Et s'il n'y avait Nine, personne ne lui prêterait attention. Alors, devant le peu de succès de son intervention, la vieille tante répète comme une pièce importante à verser au délicat dossier de la sexualité que, quant à elle, à 26 ans, le problème s'était trouvé définitivement résolu, ce qui, cette aménorrhée fatale, loin de la chagriner, était à l'entendre la meilleure chose qui lui fût arrivée, comme un bon débarras. À l'encombrant rappel chaque mois de sa féminité, une sorte de grâce divine lui permettant, le corps et l'esprit purifiés, de bâtir sur les ruines de sa vie de femme son limpide destin de bienheureuse institutrice pour la gloire du Très-Haut. Une seule fois, on l'a surpris en flagrant délit de coquetterie au mariage de papa et maman. Sur une photo de cortège, elle donne le bras à grand-père, pimpante, dans une longue robe noire fourreau, un chapeau capeline incliné sur l'oreille, gants noirs, pochette noire, son petit visage chiffonné pointant glorieusement le menton, mais déjà toute blanche. Ce sublime chant du cygne en l'honneur de son neveu ne saurait effacer 30 années de renoncement, d'oubli de soi. Elle a déjà cette allure générale de petite vieille qu'elle avait dû adopter l'année de ses 26 ans. Comment l'imaginer courant les magasins, arrêtant son choix sur une robe et gainée de noir face à son reflet dans un miroir, promenant ses mains sur ses pauvres formes? Plus sûrement, elle doit sa tenue à grand-père, qui habilla de fait une grande partie de la noce. Mais elle a l'air ravie, ne cherchant pas à se cacher du photographe, la tête penchée sur l'épaule, comme nous l'avons toujours vu, et gentiment moquée, car c'était vraiment elle, sa marque, si bien que plus tard, devant les femmes de Modigliani, nous avons été quelque peu désappointés que d'autres, pour cette inclinaison, tirent une gloire qui lui revenait à elle. Ce sursaut d'élégance, cette bouffée d'audace, une fois dans une vie, ce n'est pas abusé. D'autant qu'elle se doute bien que les regards flatteurs, les marques d'intérêt, s'adressent plutôt qu'à elle, à la tête du cortège. Elle sait bien qu'elle ne possède pas la distinction toute parisienne de grand-père, qui, à son bras, porte la jaquette avec ce maintien aristocratique qu'enseigne la proximité des maîtres. On la sent prête, au premier faux pas, à retrouver ses jupes informes, son cabas noir écaillé et sa maisonnette dans le jardin. et la parenthèse de ce beau jour refermée, à reprendre le compte à rebours de son dernier flux menstruel, l'année de ses 26 ans. Et si pour une fois nous comptons avec elle au lieu d'affecter l'ennui devant ses histoires, nous avons la surprise, puisqu'elle est née en 1890, d'aboutir à l'année 1916. Et affinant nos calculs à ce mois de mai où son frère Joseph expirait. C'est donc cela qu'elle nous disait, lançant à la cantonade ses contes cabalistiques. Cette longue et secrète retenue de chagrin, se sent ravaler comme on ravale ses larmes, et par cette mort, sa vie à jamais déréglée. Voilà, nous avons donc terminé cette semaine donc ces passages du roman de Jean Rouault, Les Champs d'honneur. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une autre lecture. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.